Toujours une joie d'apporter la parole de Dieu parmi nous, parmi vous. Alors, vraiment, c'est une joie. Et puis, je regardais le texte que j'allais prêcher. 1 Pierre 3 m'a donné assez de fil à retordre dans le travail, en commençant par le premier verset d'1 Pierre 3. Et puis, le texte que nous lirons aujourd'hui, vous allez voir, c'est assez... j'ai simplifié ça, alors... mais restez avec moi, il y a des petites particularités là, qui rendront la chose un peu difficile. Mais j'essaierai, autant que faire se peut, de rendre la chose digeste. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. On peut s'asseoir. Alors, allons-y. Et qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien? Alors, il faut être honnête. À première vue, on se dit, Pierre, t'as-tu vu le monde dans lequel on vit? Parce que l'Épître, en plus, parle de souffrance. Pierre lui-même vient d'en parler, vient de parler d'injures, de calomnies, de mépris. Donc, comment peut-il dire cela? La clé pour comprendre ce que Pierre est en train de dire, c'est plutôt qu'il le pose de façon rhétorique. Il pose une question rhétorique comme un proverbe de sagesse. En général, le bien désarme. En général, une conduite droite enlève des prétextes pour être persécuté. Le bien n'éteint pas toute méchanceté, mais il réduit la prise de l'accusation qu'on pourrait recevoir. On le voit dans toute sa lettre, Pierre n'arrête pas de dire « Ayez une belle conduite parmi les païens, afin qu'ils glorifient Dieu. » 1 Pierre 2, 12. « Faites le bien pour réduire au silence l'ignorance des hommes ou les hommes ignorants. » Autrement dit, la vie droite empêche certaines persécutions, mais pas toutes. Ce n'est pas une assurance zéro souffrance, mais c'est une manière de vivre qui rend l'attaque moins légitime et parfois même moins probable pour nous. On sait qu'il existe des gens qui feront le mal quand même, et c'est pour cela que juste après, il ajoute, « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Donc, Pierre fait les deux en même temps. Il affirme le principe général. Le bien a une force sociale de restriction du mal qui est réel. Et, deuxième point, il admet qu'il y a des exceptions. Parfois, malgré qu'on fait le bien, on souffre injustement. Alors, on peut souffrir, oui. On peut être calomnié. On peut nous humilier. Mais ce que le texte dit, c'est qu'on ne peut pas nous nuire. Au sens de détruire, de te séparer de Dieu, de te voler ton héritage, de te renverser de la grâce de Dieu. Autrement dit, le monde peut atteindre ta peau, ta réputation, ton confort, mais il ne peut pas atteindre ton salut. Il peut frapper ton corps, mais il ne peut pas te confisquer ton espérance. Il peut te faire passer pour un perdant maintenant, mais il ne peut pas changer le verdict final. Et c'est pour ça qu'il dit « N'ayez d'eux aucune crainte ». C'est exactement la même logique qu'utilise Jésus. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, parce qu'il y a une frontière qu'ils ne peuvent pas franchir. » Et c'est dans cette même ligne, la souffrance est réelle, mais elle n'est pas souveraine. Parce qu'on doit craindre ceux qui peuvent « tuer l'esprit », en guillemets, qui peuvent t'envoyer dans la mort éternelle. Mais nous, maintenant qui sommes en Christ, nous n'avons plus cette crainte-là. Alors, la souffrance, comme je disais bien, elle est réelle, mais elle n'est pas souveraine sur nos vies. Elle n'est que pour un temps limité. Alors, ça rejoint aussi le principe très simple. Toutes les voies de l'homme lui semblent droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Les gens ne se lèvent pas un matin et ils disent « je vais être très méchant avec les chrétiens ». Mais ils se justifient, ils se racontent une histoire, ils appellent le bien ce qui est mal. Parce que si le monde appelle parfois bien ce qui est mal, si le monde applaudit parfois ce que Dieu condamne, alors la question devient inévitable. Qui décide au final ce qui est bien, ce qui est mal? Ce qui est une réussite ou ce qui est un échec? Est-ce la foule? Est-ce mon employeur? Est-ce mon entourage? Les réseaux sociaux? Ou est-ce le Christ, le Seigneur? Alors, c'est pour ça que le texte ne s'arrête pas à « n'ayez pas peur », mais il donne une stratégie, si on peut dire, spirituelle, qui est, à mon avis, concrète. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur » au verset 15. Autrement dit, « remets Christ à la place centrale, pas dans un petit coin religieux de ta vie, mais au centre. » Dans la Bible, le cœur, c'est le quartier général, là où tu prends tes décisions. Là où tu choisis ce qui compte réellement pour toi. Sanctifier Christ, ce n'est pas ajouter Jésus à son agenda, c'est reconnaître qu'il est Seigneur, donc qu'il a le dernier mot, même quand je souffre. Pierre, par ce verset 15-là, fait écho à Ésaïe 8. Dans le chapitre, Ésaïe 8, le peuple de Dieu vit sous une menace qui est réelle. Ils ont la peur collective, une pression sociale, des inquiétudes politiques. Et Dieu leur dit, « Ne craignez pas ce que le peuple craint. Sanctifiez l'Éternel. Ne laissez pas la peur du monde devenir votre boussole, mais laissez Dieu être le seul saint dans votre cœur, celui qu'on met à part, celui devant qui on tremble avec révérence. » Pierre reprend cette même logique-là, mais il la place sur Jésus, sanctifier Christ comme Seigneur. Ça veut dire que pour Pierre, traiter Jésus comme Seigneur n'est pas juste une formule pieuse, mais c'est lui donner la place que l'Ancien Testament réserve à Dieu, à l'Éternel des armées. La place du saint que l'on révère, du roi devant qui on se tient, du dernier juge dont le verdict compte plus que tous les verdicts humains. Alors voilà pourquoi ce commandement est le remède à la peur. Si Christ est réellement Seigneur au centre, alors au centre de ma vie, alors ni les opinions des hommes, ni la calomnie, ni la menace ne peuvent être ultimes de façon qu'ils peuvent m'arracher de sa main et me faire un mal très grave. Elles peuvent me blesser physiquement. L'Église primitive a été persécutée, ils ont été mis à mort. Alors, c'est pas de cette menace-là que le texte parle. On peut être blessé, mais cette crainte-là ne règne pas sur nous. Ce n'est pas les hommes et leurs craintes qui règnent sur nous, mais c'est le Seigneur qui a une emprise sur nos vies. La souffrance ne prouve pas qu'on est dans la volonté de Dieu non plus. Il faut quand même le dire, hein? Je suis persécuté pour Christ. C'est peut-être parce que tu es désagréable aussi. C'est, des fois, disons-le réellement. Mais de façon générale, ici dans le texte, la souffrance peut être le coût de la fidélité au Seigneur dans bien des cas. Mais dans d'autres cas, on peut être aussi, nous aussi, la raison de nos persécutions. Alors, sachons être du bon côté. De la même façon qu'au début du chapitre 3, Pierre montre que la fidélité au Seigneur se voit dans une conduite qui parle, qui transmet, au point de gagner un mari non chrétien par ses actions. Si vous vous souvenez, la première péricope du chapitre 3. Et là, encore ici, l'obéissance concrète mène au témoignage. La vie transformée devrait toujours être un reflet à la parole de Dieu, à l'Évangile que nous chérissons. Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand Pierre parle d'apologie, il ne demande pas de gagner des débats par des arguments, mais d'être prêt à donner une explication claire et sensée dans nos vies. Surtout dans un contexte où on est observé, critiqué, soupçonné et parfois, comme le texte le dit, calomnié. Alors, cette espérance devient visible précisément parce que le croyant réagit autrement. Il ne rend pas coup sur coup, il ne se venge pas. Il persévère sans renier le bien. C'est cette différence au milieu de la pression qui finit par provoquer des questions chez les non-croyants et d'être un témoignage, justement. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu refuses la rancune? Pourquoi tu as cette espérance en toi? Et Pierre encadre tout de suite la manière de faire l'explication. L'explication doit être donnée avec douceur, sans agressivité, sans sarcasme, mais avec maîtrise et avec crainte, non à cause de la peur des hommes, mais à cause du sérieux de parler devant Dieu, de parler de Dieu devant Dieu. Il ajoute une condition aussi qui est concrète, d'avoir une bonne conscience, une vie cohérente qui ne contredit pas sa parole, de sorte que la calomnie perde son carburant contre nous. Elle perd son poids. S'il faut souffrir, il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal. Parce que Dieu est juge et que la fin dévoilera la vérité. Et c'est justement pour cela qu'il bascule vers l'Évangile. Notre endurance ne repose pas sur notre tempérament, mais sur le Christ, le juste qui a souffert une fois pour les péchés, afin de nous amener à Dieu. Voilà le fondement, notre fondement ultime. Et c'est ça. Alors, même si la crainte est là, c'est Christ est notre fondation, notre fondement ultime. Même si le monde me frappe, il ne peut pas défaire ce que Christ a acquis à la croix. Alors, ce qui suit dans le passage n'est pas une plongée dans l'ombre, mais c'est une montée vers le triomphe et vers le règne. Vous allez voir pourquoi je dis ça dans quelques instants. Alors, on peut faire toutes ces choses, c'est là le point quand même essentiel, hein? On peut faire tout ça, on peut résister au mal de la bonne manière, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a précédés dans cette souffrance-là. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et on remarque le mot « aussi » dans « Christ aussi a souffert », que Pierre est en train de dire « vous souffrez pour le bien, vous n'êtes pas en terrain inconnu, quelqu'un d'autre est passé par là avant vous ». Christ nous a donné l'exemple, mais il a fait plus que donner un exemple. Il l'a fait pour nous amener au Père, payer une fois pour tous nos péchés. Son sacrifice complet et suffisant qui n'est pas à répéter une deuxième fois. Le chrétien ne souffre pas dans le vide, mais il marche derrière un Seigneur qui a déjà traversé l'injustice lui-même, la honte, la violence, et qui n'a pas été englouti par la mort. Alors, notre courage doit prendre racine en lui, par l'Esprit de Dieu et dans son grand exemple. Et ça, c'était essentiel pour notre endurance, de savoir que nous sommes pardonnés par son œuvre à la croix, parce que ça change complètement le sens de la souffrance. Nous, quand nous souffrons et que nous faisons le bien, ce n'est jamais pour payer nos péchés ou les péchés de quelqu'un d'autre. Notre souffrance n'est pas expiatoire, mais elle est un témoignage pour les autres. C'est ce que le texte nous dit. Elle ne rachète pas, elle ne rachètera jamais, mais elle reflète la vie de notre Sauveur qui a tout donné pour nous sauver, lui juste pour des injustes. Et si lui a souffert injustement pour des injustes afin de les amener, ces injustes-là, à Dieu son Père, de la même manière, on doit souffrir injustement pour amener à la lumière de l'Évangile, de la bonne nouvelle, pour amener cette lumière-là aux injustes, pour qu'ils soient transformés à leur tour, amenés à cette lumière qui est inaccessible par les efforts humains. Alors, ça change aussi notre compréhension de la souffrance, de le faire pour les autres, de le faire injustement, oui, pour nous, mais de le faire également pour les autres, comme le Christ le fait. Nous souffrons comme Christ pour eux, pour ceux qui nous ont persécutés, pour ceux que nous voulons voir sauvés, passer des ténèbres à la lumière. Et encore une fois, on peut faire tout cela parce que nous avons l'espérance de la gloire à venir. Parce que nous sommes scellés pour la vie éternelle. C'est une certitude. Nous sommes scellés de quelle manière? Par l'Esprit de Dieu et parce que nous sommes attachés à celui qui a déjà traversé cette souffrance et qui en a sorti victorieux. Alors, je vais m'attarder au verset 19, le cœur du message ou la difficulté de ce passage-là. Alors, il peut sembler dur à première vue, il l'est, mais je crois qu'il finit par être simple. Alors, je me lance. Il faut toujours se dire que, ben, comme dans toutes les lettres, hein, les apôtres, lorsqu'ils écrivaient, ils n'avaient pas le plaisir de couper les cheveux en quatre pour le plaisir, hein, d'écrire. Nous, on a beaucoup de papier, on peut le faire par Internet. Mais quand ils écrivaient une lettre, ben, c'était pour encourager les chrétiens. Il y avait pas beaucoup de matériaux, ils n'étaient pas des hommes très fortunés. Alors, quand ils l'écrivaient, oui, pour enseigner des vérités théologiques, bibliques, sur Dieu, mais c'était aussi et précisément là pour encourager des chrétiens. Alors, je pense qu'il faut le dire à prime abord. Alors, Pierre encourage à nouveau des croyants qui souffrent. Et il le montre que dans ce chapitre-là, Christ est victorieux. Et donc, il peut les tenir fermes. Alors, c'est important de garder ce cap-là jusqu'au passage 22 qui nous montre justement la victoire finale. Parce que sinon, on pourrait se perdre dans les détails qui finalement ne cherchent qu'à montrer la victoire de notre maître. Il ne s'intéresse pas à savoir de couper un cheveu en quatre, mais vraiment il y a une lignée dans ce passage-là. Alors, Pierre vient de dire que Christ a été mis à mort quant à la chair, mais vivifié quant à l'esprit, verset 18. Autrement dit, il vient de poser justement un fondement. La mort a été réelle, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Le Christ crucifié n'est pas resté dans la mort, mais il a été vivifié, il a été rendu vivant. Alors, il faut bien entendre ce contraste-là, chair, esprit. Alors, Pierre, ce qu'il n'est pas en train de faire, il n'est pas en train de couper Jésus en deux parties séparables, comme si la chair désignait seulement un corps et l'esprit seulement une âme. Il décrit plutôt deux conditions, deux registres. D'un côté, l'existence du Christ dans l'incarnation, marquée par la faiblesse et la mortalité, là où il a réellement subi la mort, pendu au bois pour nous. Et de l'autre, l'existence nouvelle, sa condition inaugurée par la résurrection d'entre les morts. Alors, ce contraste-là prépare immédiatement la suite, parce que Pierre va déplier ce que cette vivification-là, quant à l'esprit, implique. Et c'est précisément ici que le texte lui-même nous donne une couture, un peu comme un vêtement, une couture grammaticale au début du verset 19. Pierre écrit en grec, « En oikai, que l'on rempart, dans lequel aussi, qui notre traduction rend quand même assez fidèlement. » Alors, techniquement, et c'est vraiment la partie la plus technique de la prédication, « En oikai » fonctionne comme une reprise anaphorique. Le relatif « au », lequel, renvoie naturellement à ce qui vient d'être dit au verset 18, la vivification quant à l'esprit. Et le « kai » aussi marque une continuité, un ajout dans le même cadre. Dit autrement, Pierre ne change pas de sujet, mais il affirme que, dans ce même cadre de vivification par l'esprit, le Christ est allé et a fait une proclamation aux esprits en prison. C'est donc le point décisif. Pierre n'ouvre pas un sujet nouveau. Le verset 19 est attaché, logiquement, au verset 18 par cette charnière-là, dans lequel aussi, en oikai. De sorte que le verset 19 n'est pas une anecdote, comme on disait tout à l'heure, une anecdote isolée qu'il faut essayer de déchiffrer et d'aller voir dans le livre d'Enoch et toutes ces choses-là, mais une conséquence décrite dans la foulée de la résurrection et qui va culminer jusqu'au verset numéro 22. Alors, et on voit que Pierre suit justement cette trajectoire-là naturelle du texte, souffrance, vivification, proclamation, exaltation, jusqu'au verset 22. Il renforce encore cette trajectoire-là par un détail verbal. Il emploie le verbe de mouvement, étant allé, porutis. Alors, au verset 19, et qu'il reprend au verset 22 aussi, lorsqu'il dit que le Christ est allé au ciel. Vous allez voir pourquoi c'est important, et ça va tout faire du sens très bientôt. Le même « aller » encadre l'unité, et c'est encore, à mon avis, un argument qui oriente le verset 19 dans le mouvement global de la péricope qui s'en va vers l'exaltation. Alors, le même « étalé » au verset 19, c'est le même qui revient au verset juste ici, au verset 22, quand il parle après ça des autorités célestes. Alors, puis Pierre précise que le Christ a fait une proclamation ekeruxen. Notre français le rend pour prêcher. Ça peut induire en erreur parce qu'on entend tout de suite évangéliser, appel à la foi, à la repentance. Mais le verbe dans sa valeur de base peut signifier aussi proclamer comme un héros, comme un messager et non pas comme un personnage légendaire. Annoncer publiquement, solennellement, une proclamation de victoire, de jugement. Alors, le mot ne garantit pas à lui seul une offre de salut, comme on pourrait l'entendre dans d'autres compréhensions de ce passage-là. Alors, c'est généralement le contexte qui va nous dire si cette proclamation est un appel à se repentir ou un verdict ou une annonce de victoire. Alors, tout le monde ici, je crois, est d'accord pour dire que forcément, Pierre n'est pas en train de dire que Christ est allé leur donner une deuxième chance aux contemporains de Noé dans leur prêchant l'Évangile. Mais après, qu'est-ce que ce passage-là veut vraiment dire? Alors, il est aussi important de s'intéresser aux destinataires de cette proclamation, aux esprits en prison. Il ne dit pas aux morts, ni aux hommes. Et c'est là, je crois, le dernier indice majeur ou le dernier morceau de casse-tête pour comprendre ce passage-là qui est compliqué. Il dit « esprit » et il ajoute « en prison ». Alors, dans le Nouveau Testament, quand « esprit » est employé au pluriel, ça renvoie normalement, généralement, à des êtres spirituels non humains. Alors, soit angélique ou démoniaque. La prison suggère une détention sous jugement, un état de garde en vue d'une sentence peut-être qui est à venir. Alors, Pierre place l'événement dans un registre qu'on dirait cosmique. Son opposé serait dans un registre qui est terrestre, hein, dans les hommes. Il parle de réalités qui sont invisibles, des rebelles désormais retenus captifs. Alors, on en sort bientôt. Il précise en décrivant et en qualifiant ces esprits auxquels il fait référence au verset 19. Il dit « Ceux-là même qui jadis furent rebelles lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. » Alors, Pierre fixe encore ici un repère historique, Noé. Ce repère-là est important parce qu'il sert à identifier le type de rébellion et de jugement dont il parle. Il associe justement les jours de Noé à une rébellion non seulement humaine, mais aussi angélique, surtout angélique, et on va voir pourquoi. Alors, on peut lire en 2 Pierre 2, hein, le même auteur, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Alors, dans ce passage-là, comme dans celui d'aujourd'hui, Pierre colle ensemble ces quelques éléments-là. Ange ou esprit, rebelle, mise sous garde, emprisonnement, en attente d'un verdict, Noé et le jugement. On pourrait même dire salut d'un petit nombre, mais voilà. Alors, vraiment une similarité entre les deux lettres de Pierre. Ensuite, on peut même lire dans le texte de Jude, qui vient un peu renforcer ce même faisceau-là, verset 6, il y a juste un chapitre, « qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Alors, Jude parle lui aussi d'anges et insiste sur le fait qu'ils ont été gardés pour le jugement. Alors, Jude, différemment de Pierre, ne va pas mentionner Noé, okay? Mais il confirme quand même une logique qui est essentielle. Certaines puissances spirituelles rebelles ne sont pas en liberté. Elles sont retenues sous garde en attente de la sentence. Alors, je fais un court résumé là, pour tout ramener ensemble, tout ça. Pourquoi je dis que c'est des esprits, les esprits en prison, des domination cosmique, spirituelle, et non pas les contemporains de Noé. Alors, Pierre ne dit pas au verset 19 « homme » ni « mort », mais « esprit » au pluriel, qui est généralement dans l'Écriture associé à des êtres spirituels non humains. Par exemple, je n'ai pas donné les exemples tantôt, mais je l'ai dit ici, Marc 1, verset 27, « il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Hébreux 1, verset 13-14, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Et puis, Apocalypse 16, 13, mon verset préféré. Trois esprits impurs comme des grenouilles. Non, mais petite blague à part, là. Voilà, on retrouve un peu de sérieux. Alors, encore là, esprit au pluriel est utilisé pour parler de domination cosmique et non pas d'homme ou de femme, de contemporain. Alors, un autre point aussi pour dans mon résumé, contraste avec le verset 20, quand Pierre parle des humains sauvés, il parle de 8 personnes. Les 8 personnes qui ont été sauvées au jour de Noé. Il dit « Il réserve esprit pour l'autre groupe. » Il fait 2 catégories différentes, les personnes qui ont été sauvées et l'autre groupe qui serait et qui est, à mon avis, les esprits. En prison, la prison évoque une détention sous jugement, pas une scène d'évangélisation ou une seconde chance, comme on pourrait entendre dans certaines positions. Et... Le repère, jour de Noé. Noé sert à identifier un type de rébellion plus un jugement qui est tombé et qui, ailleurs, est relié à des puissances spirituelles. Alors, je vous ai épargné le livre d'Enoch et toutes ces choses-là et tous les commentaires extra-bibliques, mais je pense qu'avec ça, on est suffisant. 2 Pierre 2 et Jude, les textes que j'ai lus, je ne vais pas les relire, proclamer. Ekeruxen. Le verbe peut vouloir dire aussi une proclamation officielle d'un héros. C'est ça. Et puis, la finale de notre passage, je pense quand même qu'il est intéressant. Pierre conclut par l'exaltation et la soumission des anges, des puissances. Alors, du verset 19 jusqu'au 22, ça s'insère dans le même mouvement cosmique de triomphe sur les entités spirituelles. Alors, en synthèse, Pierre parle d'un acte de triomphe du ressuscité dans le monde invisible, proclamation à des esprits rebelles désormais détenus, et il termine en disant que toutes les puissances sont soumises au Christ. Voilà. Mais à mon avis aussi, la question, c'est pourquoi Pierre raconte ça à des croyants persécutés, un peu comme on l'a dit au début. Hein? C'est pour les encourager. En disant qu'il existe un monde invisible, il existe des puissances encore plus terribles qui agissent dans l'ombre, dans le monde. Mais même eux, le Christ a proclamé sa victoire et il domine sur eux. Donc, ce que tu affrontes, ce qu'on affronte en tant que chrétien, les gens qui te persécutent du début du passage, sont en fait sous la puissance spirituelle de ces esprits mauvais-là, mais ils ne peuvent rien faire aux croyants, parce que Christ est victorieux, le déjà et le pas encore, hein? Et parce qu'il est victorieux par la résurrection d'entre les morts, nous le sommes également, nous qui sommes en lui. Alors, tout est sous son contrôle et rien n'échappe à son contrôle. Dieu est patient, il fait arriver les choses en son temps. On voudrait peut-être que le monde rebelle soit balayé de devant nous pour arrêter de souffrir. Mais Dieu nous encourage par la plume de Pierre. L'histoire montre déjà que le mal n'a pas le dernier mot. Même quand il paraît majoritaire, même quand il paraît invincible, peut-être aux yeux humains, quand on souffre, on a l'impression que l'injustice est normale et que le bien est inutile. Mais Pierre nous rappelle Noé pour qu'on comprenne ceci. On pourrait faire une application aussi. Dieu sait très bien attendre, mais Dieu n'oublie jamais. Il retarde parfois le jugement, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est patient. Et quand l'heure vient, il juge réellement. Alors, quand on est calomnié, quand on est exclu, quand tu es peut-être ridiculisé pour ta foi, tu n'as pas besoin de t'écrouler ou de devenir agressif. Tu peux continuer de faire le bien avec calme, parce que tu sais que l'histoire n'est pas bloquée, le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre, mais il est parfait. Il y a des moments où la fidélité ressemble à construire une arche. C'est lent, c'est répétitif, ça semble inefficace et les gens se moquent même de nous. Mais c'est justement là que la foi se voit. On n'est peut-être pas nombreux comme Noé. Noé était pas majoritaire, mais il était plutôt minoritaire à son époque. Mais la vérité n'est jamais une affaire de nombre. C'est Dieu qui décide du salut. Il aime le petit troupeau et il sait préserver un reste. Alors, dans notre passage, on continue. Et restez avec moi jusqu'à la fin de ma phrase. Pierre ose dire, si on peut dire ainsi, le baptême sauve. On continue. Et il dit dans la continuité de son raisonnement, comme Noé et les siens furent sauvés à travers l'eau, non pas parce que l'eau serait en elle-même salvatrice, mais parce qu'au milieu du jugement, Dieu a porté son peuple plutôt. De cette manière-là, dit Pierre, le baptême est l'antitype le correspondant qui renvoie à cette même logique-là. Salut au travers d'un jugement, désormais accompli en Christ. Alors, il ne s'agit pas non plus d'un bain qui enlève la saleté de la peau, d'une purification mécanique, d'un rite qui agirait par lui-même. Ce qui est en jeu, c'est la réalité intérieure et relationnelle. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, nous dit le texte. Au baptême, des croyants le font, la foi qui est déjà née s'exprime au grand jour. Elle implore la grâce de Dieu et elle se scelle dans une confession publique. Je renonce à l'ancienne vie, je m'attache à Christ. Je veux vivre sous sa seigneurie. Il faut dire, on n'a pas une conscience qui est nécessairement parfaite, mais on a une conscience que la Bible dit être rendue droite, qui est tournée vers Dieu. Oui, elle n'est pas parfaite, mais elle est droite. Alors, Pierre peut affirmer que le baptême, en guillemets, sauve, peut-être que cette appellation-là n'est peut-être pas juste, sans faire du rite un sauveur. Ce n'est pas le rite qui sauve, parce que le baptême est le signe public où la foi est rattachée à une réalité objective, stable, plus grande que nos émotions, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. La puissance salvatrice n'est pas dans l'eau, mais elle est dans le Christ vivant et victorieux pour nous. Et le baptême sauve au sens où il correspond à cette union au ressuscité et à cette conscience orientée vers Dieu au moment même où le croyant prend position, hein, au moment du baptême, au grand jour devant l'Assemblée. Alors voilà pourquoi dans une lettre adressée à des croyants calomniés et marginalisés, persécutés, Pierre parle ainsi, et c'est aussi à nous aujourd'hui qu'il parle. Il veut nous donner un repère stable quand la pression monte. Ton baptême n'a pas été un rite qui fabrique le salut, c'est le signe public par lequel la foi tu t'es identifié par la foi à Jésus. Je quitte l'ancienne voie et je m'attache à Christ. Je veux le suivre, lui et lui seul. Et quand l'hostilité du monde te fait douter, la parole de Dieu nous dit, reviens à la réalité que ton baptême confessait. Non pas à cause de l'eau, mais à cause de la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Tu n'es pas défini par les accusations des hommes, mais par l'union avec le ressuscité. Ton baptême devient alors un rappel pour une conscience droite devant Dieu. Je suis au Christ, je lui appartiens. Le Christ est vivant, il me gardera. C'est lui qui règne dans les cieux et il a domination sur tous les hommes. Alors, en courte conclusion, Dieu nous appelle à vivre coram Deo, à vivre sous son regard, devant lui, ce que ça veut dire. Alors, coram Deo, ça veut dire vivre dans la consolation et dans la fermeté, parce que l'histoire n'est pas entre les mains de ceux qui calomnient, mais entre les mains de Jésus-Christ. Faire le bien ne nous immunise pas contre le mal. On peut être zélé pour le bien et quand même être heurté, quand même être persécuté. Alors, le passage d'aujourd'hui nous apprend à ne pas interpréter la souffrance comme un verdict contre l'Évangile. Qu'on ne marcherait pas droitement avec l'Évangile. Il nous dit, tu peux être blessé, mais tu ne peux pas être détruit. Parce que le monde peut toucher ta peau, mais ne peut pas confisquer ton héritage qui est céleste. Alors, il nous donne le remède à la peur. Sanctifie Christ comme Seigneur dans ton cœur. Remets Jésus au centre du quartier général, là où tu décides qui règne, qui compte et à qui tu obéis. Car Pierre reprend la logique d'Ésaïe 8. Quand Israël était entouré de menaces, Dieu lui disait de ne pas craindre ce que le peuple craint, mais de sanctifier le Seigneur, de le mettre à part comme le seul saint de sa vie. Le seul ultime, celui devant qui l'on tremble avec révérence plutôt que de trembler devant les hommes. Le remède à la peur n'est pas d'abord de calmer ton cœur par des techniques, mais de réordonner ton cœur, retirer aux hommes le pouvoir qu'ils ont sur toi et de donner à Christ la place centrale dans ton adoration, ta loyauté et tes décisions. Si le Christ est Seigneur, la calomnie n'est pas souveraine. Pierre nous appelle à devenir témoins. Sois prêt à rendre raison de ton espérance avec douceur et respect. Et garde une bonne conscience devant Dieu. Pas une perfection, mais une cohérence de vie. Une vie qui marche droitement, fidèlement à l'Évangile de gloire. Alors, pourquoi on peut vivre comme ça? Parce que notre endurance ne sort pas de notre tempérament, mais elle sort de l'Évangile qui est appliqué par l'Esprit de Dieu en nous. Pierre nous ramène au centre. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, notre souffrance ne paie rien, pas comme le Christ, mais elle témoigne aux autres la vérité de l'Évangile. La sienne a tout payé. Elle a ouvert l'accès au Père. Et parce qu'il est vivant, est exalté maintenant, notre foi n'est pas accrochée à un souvenir, mais à un Seigneur ressuscité. Et voici le point décisif. Ce Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il a envoyé son Esprit en nous. Et Pierre va encore plus loin dans le texte, jusqu'au verset 22. Il nous montre que la résurrection n'est pas seulement bonne nouvelle intime pour moi, une bonne nouvelle pour moi, mais c'est une victoire cosmique. Il a vaincu, il a proclamé un jugement sur ces entités-là cosmiques. Le ressuscité a proclamé sa victoire, il est monté au ciel et il nous donne un signe qui tient quand tout tremble, le baptême. La foi se tient devant Dieu et on s'engage devant lui par la foi à suivre le Christ au moment de notre baptême. Et cette foi-là est attachée à une réalité objective, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Et Pierre termine au sommet, « Christ est à la droite de Dieu », dernier passage, « et tout lui est soumis ». Voilà la conclusion du texte. Le roi, le Christ, règne. Alors, quand on est calomnié, on n'est pas abandonné. Quand on est marginalisé, tu n'es pas oublié de la part de Dieu. Quand tu souffres en faisant le bien, tu n'es pas hors de la volonté de Dieu. Tu es sous le regard du Père, sous la seigneurie du Fils, dans la consolation de l'Esprit. Amen.